VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 11 septembre 2023. Plus de 48 heures après le séisme survenu vendredi soir au Maroc, les secouristes se sont lancés dans une course contre la montre pour retrouver des survivants dans les décombres. Les détails dans...
La plupart des familles, pour ceux qui ont encore un toit, préfèrent dormir à l'extérieur que dans les maisons parce qu'ils craignent que le soir, les secours se produisent à nouveau.
Voilà, vous aurez les détails dans un instant avec notre correspondant à Marrakech. En Libye, la tempête Daniel fait 150 morts à Derna et jusqu'à 250 morts sont même redoutés. Au Mali, l'aéroport de Tombouctou a été la cible d'une attaque aujourd'hui. Des obus ont été tirés sur le périmètre aéroportuaire. Aujourd'hui, 11 septembre, les États-Unis marquent le 22e anniversaire de l'attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol américain. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Plus de 48 heures après le tremblement de terre qui a secoué le Maroc, les secours s'efforcent toujours de retrouver des survivants. Il y a près de 2700 morts dans les villes les plus touchées, comme Marrakech. Les habitants sont encore sous le choc et ont peur de dormir dans les maisons par crainte de nouvelles secousses. Le point avec notre correspondant à Marrakech, Emmanuel Ngapela.
Depuis que ce séisme a frappé ici au Maroc, les secours se sont mobilisés, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau même de la population. Tout le monde essaie de mettre sa main à la pâte. Hier, nous étions dans une localité qui s'appelle Moulay-Ibrahim. On a vu des colonnes et des colonnes de véhicules, des personnes qui sont volontaires, qui ont pris leur véhicule, qui ont rempli de vivres, de couvertures, à ramener dans ce village. Et ce qui est aussi frappant, qu'il faut noter, au niveau de Marrakech où nous sommes, la population est encore très effrayée parce que la plupart des familles, pour ceux qui ont encore un toit, préfèrent dormir à l'extérieur que dans les maisons parce qu'ils craignent que le soir, les secours se produisent à nouveau. Dans le quartier de la Médina, là où il y a eu le plus de dégâts matériels, les populations sont dans des places publiques où ils ont aménagé une sorte de tente de fortune pour essayer de se protéger du froid. Les recherches continuent. Hier encore, nous avons vu comment est-ce que les autorités sont en train de chercher par tous les moyens, avec des chiens, avec le matériel qui peut aider, pour pouvoir sortir ces gens-là. Il faudrait noter aussi que avec le séisme, les routes sont vraiment impraticables. Pouvoir déblayer les routes pour permettre aux véhicules qui transportent de l'aide de pouvoir arriver jusqu'aux villages qui ont été le plus touchés. Emmanuel Ngapela, depuis Marrakech, pour VOA Afrique.
Les propositions d'aide se poursuivent. Le gouvernement marocain dit avoir accepté le soutien de 4 pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que le Maroc a répondu favorablement à ce stade aux offres de l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Les équipes de recherche et de sauvetage espagnoles, britanniques, qataris et émiratis sont entrées dimanche en contact avec leurs homologues au Maroc en vue de coordonner les efforts, ajoute le communiqué. Tout en remerciant tous les pays qui ont proposé l'envoi de secouristes, le ministère affirme que le Maroc a accepté celle de 4 d'entre eux après avoir procédé à une évaluation minutieuse des besoins sur le terrain et en tenant compte du fait qu'une absence de coordination pourrait être contre-productive. Le communiqué précise que d'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir si les besoins devaient évoluer. De nombreux pays, de la France aux États-Unis en passant par Israël, ont proposé leur aide au Maroc. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, soutient que le royaume chérifien n'a refusé aucune aide de la France et est souverain dans l'acceptation des aides proposées.
Des inondations causées par des pluies diluviennes ont fait au moins 150 morts dans l'est de la Libye, frappée à son tour par la tempête Daniel, qualifiée par les experts de phénomène extrême en termes de quantité d'eau tombée. La tempête baptisée Daniel a frappé aussi ces derniers jours la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, faisant au moins 27 morts. Le bilan pourrait atteindre 250 morts, a fait savoir Kaïs Fakeri, le chef de la Croix-Rouge à Benghazi, qualifiant la situation de vraiment catastrophique. Lors d'un conseil des ministres extraordinaires diffusé en direct à la télévision ce lundi, le gouvernement de l'Est a annoncé 3 jours de deuil national, soulignant l'unité de tous les Libyens face à cette catastrophe. Dans le centre du Nigeria, au moins 24 personnes sont mortes et des dizaines d'autres portées disparues dans le naufrage dimanche d'un bateau. Le bateau transportait plus d'une centaine de paysans traversant le fleuve Niger pour se rendre sur leur culture située de l'autre côté dans l'état du Niger. De nouveaux tirs de roquettes ont visé à la mi-journée. Aujourd'hui, l'aéroport de Tombouctou, au moins 3 obus sont tombés dans le super camp de la MINUSMA sans faire de victimes. Tous les vols de la compagnie Sky ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Le récit avec notre correspondant à Tombouctou, Alouseni Aladji.
Ces obus sont tombés entre le camp bangladais de la MINUSMA et des logements appartenant au staff international. Sans faire de victimes, les projectiles ont pourtant causé quelques dégâts matériels. Ces obus sont lancés sur l'aéroport au moment où près d'une centaine de passagers attendaient d'embarquer dans le vol Sky de ce lundi en direction de Bamako. Le même nombre attendait d'embarquer également à Bamako. L'avion n'a finalement pas décollé de Bamako. Tous les vols à destination et provenance de Gao et de Tombouctou sont annulés par la compagnie Sky sans indiquer une nouvelle date de la reprise de la desserte. En moins de 10 jours, l'aéroport de Tombouctou a connu au moins 2 attaques aux roquettes. Le 30 août dernier, 5 obus sont tombés sur la zone aéroportière sans faire de victimes. Une partie de l'aéroport est déjà fortement endommagée et inutilisable depuis l'attaque de 2017. En un mois, la ville de Tombouctou a connu au moins 3 attaques aux roquettes. Le 27 août, des tirs d'obus avaient causé la mort d'une fille de 12 ans et blessé 5 autres personnes. Ces nouveaux tirs d'obus interviennent seulement quelques jours après l'hécatombe liée à l'attaque du bateau Tombouctou. Ce drame a causé la mort de plus d'une centaine de passagers. À ce jour, 407 rescapés arrivés dans la localité de Rarousse attendent de rejoindre leurs familles respectives. L'attaque du bateau Tombouctou avait été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Ghali. Pour rappel, la rétrocession des camps MINUSMA de Ber et de Goundam dans la région de Tombouctou a donné lieu à plusieurs combats entre l'armée et les groupes armés djihadistes. Pour VOA Afrique, Al-Hussein Al-Hadji, depuis Tombouctou.
Les activités de quelques 400 soldats français au Gabon suspendus après le coup d'État du 30 août à Libreville reprennent de façon progressive dans le pays, a annoncé aujourd'hui le ministère français des armées. Le 30 août, l'armée a renversé Ali Bongo Ondimba peu après avoir été proclamé réélu au terme d'une élection jugée frauduleuse par les militaires et l'opposition. Le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du Soudan, a rencontré aujourd'hui son homologue érythréen à Asmara, flanqué de ses ministres des Finances et des Affaires étrangères. Le général Burhan a discuté avec le président érythréen Isaias Afwerki du soutien au Soudan et à son intégrité territoriale, indique laconiquement le bureau du général soudanais. Le général Burhan est rentré au Soudan en fin d'après-midi après sa 4e visite à l'étranger en 2 semaines.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis commémorent aujourd'hui le 22e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre. Près de 3000 personnes ont été tuées lorsque des terroristes d'Al-Qaïda ont détourné 2 avions commerciaux et les ont fait s'écraser sur les tours jumelles du World Trade Center. Alexandrine Oulougnon.
Les Américains commémorent les attaques meurtrières du 11 septembre 2001 à New York. Plusieurs personnes se sont rassemblées à Ground Zero pour ce 22e anniversaire. C'est l'un des rares anniversaires sans qu'un président n'apparaisse aux cérémonies organisées sur les sites des crashs à New York, en Pennsylvanie ou au Pentagone. Le président Joe Biden doit prononcer un discours devant les militaires, les premiers intervenants et leurs familles sur une base militaire à Anchorage, en Alaska. La première dame Jill Biden, le secrétaire à la défense Lloyd Austin et le chef d'état-major interarmé, le général Mark Milley, ont participé à une cérémonie de dépôt de gerbes au Mémorial national du Pentagone pour ce 11 septembre. Le 11 septembre est une journée nationale de service et de commémoration reconnue au niveau fédéral qui vise à transformer une journée de tragédie en une journée de bienfaisance pour honorer la mémoire des victimes et de ceux qui ont réagi aux attaques terroristes.
Joe Biden conclut aujourd'hui sa visite éclair à Hanoï, qu'il a qualifié d'historique entre discussions économiques, mise en garde à la Chine et hommage à un héros américain de la guerre du Vietnam. Le président américain qui, au total, a passé 24 heures dans la capitale vietnamienne, a en particulier annoncé une juteuse commande pour le géant américain Boeing d'une valeur de 7,8 milliards de dollars. Le Vietnam et les États-Unis ont signé dimanche un accord de partenariat stratégique renforcé à forte teneur économique et technologique. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un va se déplacer en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Ont confirmé aujourd'hui les deux pays après que les dirigeants américains ont indiqué qu'un contrat d'armement pourrait être au menu des discussions. Ce lundi, Kim Jong-un se dirigeait vers la frontière nord-est de la Corée du Nord à bord d'un train spécial pour la Russie en vue du sommet avec le président russe, a rapporté une chaîne sud-coréenne qui affirme que le sommet devrait se tenir dès demain mardi. Ce déplacement sera le premier à l'étranger du dirigeant nord-coréen depuis plus de 4 ans. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Le Ghana a augmenté samedi de plus de 63% le prix du cacao garanti par l'État, payé aux producteurs pour augmenter leurs revenus et empêcher la contrebande de fèves vers les pays voisins où elle rapporte plus d'argent en raison de bonnes offres. Les agriculteurs recevront 1837 dollars par tonne pour la saison 2023-2024 qui commence en septembre, contre 1120 dollars auparavant. C'est le prix le plus élevé jamais payé aux agriculteurs ghanéens depuis plus de 50 ans. En Côte d'Ivoire, la production de cacao pourrait chuter de 20% au cours de la saison 2023-2024 qui débutera le 1er octobre par rapport aux dernières années en raison de mauvaises conditions météorologiques. Cela ferait grimper les prix, avertissent ce lundi des sources industrielles. Pour terminer, le Nigeria cherche à conclure un pacte de coopération économique avec l'Inde, a déclaré la présidence à Abuja. Le groupe indien Jindal Steel and Power s'est engagé à injecter 3 milliards de dollars dans le secteur sidérurgique nigérian. Indorama prévoit d'investir 8 milliards de dollars pour agrandir ses installations pétrochimiques au Nigeria.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
De nouveau qualifié pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire.
La Gambie tient son ticket pour Abidjan. Les Scorpions ont validé leur qualification grâce à leur match nul 2-2 face à la République du Congo. Ils terminent donc deuxième du groupe G avec 9 points derrière le Mali. Qualification aussi de la Mauritanie après son succès 2-1 sur le Gabon. De la République démocratique du Congo, victorieuse 2-0 du Soudan et du Mozambique qui accompagne le Sénégal dans la poule L suite à sa victoire 3-2 face au Bénin. Les derniers tickets seront attribués demain dans le groupe C au terme du match Cameroun-Burundi à Garoua. La compétition aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire.
Luis Rubiales démissionne de la Fédération espagnole de football.
Le président suspendu de la Fédération espagnole de football a annoncé sa démission dimanche soir. À propos de ma démission, oui, je vais le faire, oui, parce que je ne peux pas continuer mon travail, a affirmé Luis Rubiales. Il en a informé la fédération dans une lettre adressée à Pedro Rocha Jucó, président intérimaire. Il a également démissionné de son poste de vice-président de l'UEFA, a déclaré la Fédération royale espagnole de football dans un communiqué. Dans sa lettre de démission, Rubiales dit avoir agi avec le souci de protéger le football espagnol, mais se défend de nouveau d'avoir agressé la joueuse. Le 20 août, quelques minutes après le sacre mondial de la Rora féminine à Sydney, le patron du foot espagnol avait embrassé sur la bouche par surprise Jenny Hermoso, provoquant l'indignation en Espagne et à travers le monde.
Ici en MLS, Bruce Arena démissionne de New York England.
L'ancien sélectionneur de l'équipe de football des États-Unis quitte son poste d'entraîneur du club de New England Revolution. Cela fait suite à une enquête pour propos insensibles et inappropriés, a annoncé la Ligue de football nord-américaine. Bruce Arena avait été mis à pied le 30 juillet pour la durée de l'enquête de la MLS. Ces investigations ont confirmé certaines des allégations, a indiqué la MLS dans un communiqué, sans fournir de détails sur les faits reprochés à l'ex-coach de Team USA. Dans un communiqué séparé, New England a annoncé qu'il a accepté la démission de Bruce Arena, qu'il avait rejoint en 2019. Arena a dirigé Team USA à deux reprises, de 1998 à 2006 et de 2016 à 2017. Il a conduit l'équipe des États-Unis au quart de finale du Mondial 2002 au Japon et en Corée du Sud.
Page de sport VO Afrique signée Yakuba Oudraou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Plus de 48 heures après le séisme survenu vendredi soir au Maroc, le plus puissant dans le pays depuis 6 décennies, les secouristes sont lancés dans une course contre la montre pour retrouver des survivants dans les décombres. Beaucoup de survivants ont passé une troisième nuit dehors alors que leur maison a été détruite ou abîmée par le séisme qui a aussi endommagé des bâtiments historiques de la Médina de Marrakech, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre correspondant Emmanuel Ngapela a recueilli le témoignage d'une Ivoirienne basée à Marrakech.
Tigrane Mondenier, artiste chanteuse ivoirienne, résidente au Maroc depuis. Je pense qu'il n'y a pas plus effrayant comme expérience de savoir que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On était tranquillement à la maison et on sent le mur trembler, on sent le sol trembler. Et du coup, on est envahi de cette grosse peur-là. On se dit que tout peut s'effondrer. On prend la panique, on commence à courir dans tous les sens. Et vraiment, c'est effroyable. C'est effroyable comme sentiment. J'ai même pas de mots pour expliquer ça.
Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon qui pourrait peut-être changer un peu l'orientation de vos priorités aujourd'hui?
La première leçon est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il faut vraiment... Moi, personnellement, je venais à peine de finir mes prières quand il y a eu le tremblement. Donc du coup, j'ai compris que... Avoir Dieu dans sa vie, ça a une grosse importance, surtout quand on traverse ce genre de moments. Et voilà, mes priorités ont changé. Voilà, Dieu, moi, faire du bien autour de moi, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter.
Dans certains endroits, certaines périphéries, il y a beaucoup plus de dégâts. Mm-hmm. Mais là où vous êtes, il y a moins de dégâts. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui a fait qu'ici, il n'y a pas trop de fissures?
Bon, je pense déjà que la solidité des bâtiments, les bâtiments dans le centre-ville ici ne sont pas vraiment des trucs anciens. Et là, la résidence, je ne pense pas qu'elle ait plus de 10 ans d'existence, enfin je crois. Donc déjà la solidité des bâtiments et puis peut-être le fait qu'on ait été prompt à réagir à l'instant quand ça s'est passé. Il y a sûrement des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Je prends l'exemple de la Médina. On sait que la majorité des bâtiments à l'intérieur de la Médina sont des vieux bâtiments qui ont été restaurés. Donc du coup, c'est normal que les secousses n'aient pas les mêmes impacts sur nos bâtiments et les bâtiments de la Médina. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie et... Voilà, nos condoléances aux familles attristées. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire?
Une ressortissante ivoirienne basée à Marrakech.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la gestion des catastrophes naturelles à la lumière du séisme qui a secoué le Maroc. Alors que le pays compte encore les victimes de ce deuxième séisme le plus meurtrier de son histoire, l'année 2023 a déjà connu des tremblements de terre meurtriers en Turquie et en Syrie. Quels sont les risques sismiques en Afrique? Quel est le niveau de préparation des pays dans la gestion des catastrophes naturelles? Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Les dirigeants militaires nigériens ont rouvert l'espace aérien de leur pays aux avions commerciaux après l'avoir fermé le 6 août. Toutefois, cette reprise des vols n'a pas normalisé les activités des drones américains au Niger, a révélé le Pentagone. Reportage de la correspondante de la VOA au Pentagone, Carla Babb. Le récit est de Lionel Gaïma.
Dans des entretiens exclusifs avec la VOA, des responsables américains ont fait état de la limitation depuis le coup d'état de juillet des vols de drones militaires américains basés au Niger. Ce pays est, pour l'armée américaine, la plaque tournante en matière de renseignement, de reconnaissance et de surveillance pour la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Des drones américains lancés à partir des bases situées dans la capitale nigérienne, ainsi que la base aérienne d'Agadez, à un millier de kilomètres au nord-est, ont permis de surveiller le ciel au-dessus de la région instable du bassin du lac Tchad, qui comprend le Cameroun, le Tchad et le Niger. Ces dernières années, les populations locales ont subi plein fouet les ravages des groupes islamistes. Bill Roggio est analyste à la Fondation pour la défense de la démocratie.
Les États-Unis ont des capacités, des ressources et des options de base limitées et ils parviennent à peine à contenir le problème.
Limiter les vols des drones donne un avantage aux militants, explique Roggio. La réduction de la surveillance aérienne et de la collecte de renseignements réduit les options au sol pour les États-Unis et leurs alliés dans la lutte contre le terrorisme, souligne pour sa part le général à la retraite Frank McKenzie, ancien chef de commandement central américain.
Cela réduit votre capacité à trouver des cibles, à passer aux étapes finales de l'attaque contre ces cibles. Cela a un effet significatif sur la capacité à conduire ce genre d'opération.
La coopération militaire États-Unis-Niger est suspendue depuis le coup d'État de juillet et le Pentagone a annoncé jeudi le repositionnement de ses forces de la base 101 dans la capitale Niamey à la base 201 à Agadez. Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone.
Il n'y a pas de menace perceptible contre les troupes américaines ou de menace de violence sur le terrain. C'est tout simplement une mesure de précaution.
Les États-Unis ont 1100 soldats au Niger. Selon les autorités américaines, moins d'une centaine sont partis depuis le coup d'État, certains pour des raisons médicales, d'autres dans le cadre de la rotation normale du personnel.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Tchad, une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la directrice générale des opérations de la Banque mondiale vient de terminer une visite des différents sites des réfugiés soudanais installés dans l'est du pays. La Banque mondiale a annoncé un nouveau financement de 340 millions de dollars pour permettre aux autorités tchadiennes de faire face à cette crise humanitaire. Les précisions de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajinga.
Plus de 412 000 réfugiés soudanais ont fui leur pays depuis le début de la guerre au Soudan le 15 avril cette année. Ils sont venus s'ajouter aux Soudanais qui ont fui la guerre du Darfour depuis 2003. L'imam Mahamat est le ministre tchadien de l'administration du territoire.
Ces chiffres en constante augmentation illustrent l'ampleur de la crise humanitaire que nous traversons. Ils révèlent également l'immense sacrifice consenti par le peuple tchadien depuis des années pour offrir sa terre et son hospitalité à des frères et sœurs qui en ont besoin. Cependant, force est de constater que nos capacités d'accueil et d'assistance ont atteint leurs limites. Les ressources se font de plus en plus rares, tandis que les tensions socio-économiques s'accroissent dangereusement. C'est pourquoi nous renouvelons aujourd'hui notre appel pressant à la solidarité internationale.
Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, reconnaît que c'est une grande crise dans le monde qui doit être une priorité pour la communauté internationale.
Le chiffre est probablement plus élevé que 400 000, mais c'est ce qu'on a pu compter au passage de la frontière et vers les sites où ils se trouvent. À ceci s'ajoutent ceux qui étaient déjà ici depuis les précédents conflits du Darfour, les réfugiés du Cameroun, les réfugiés de la République centrafricaine dans le sud, les réfugiés du Nigeria. Le Tchad aujourd'hui héberge 1 million de réfugiés. 1 million de réfugiés pour un pays qui a une population de 17 millions d'habitants. Ça veut dire qu'une personne sur 17 dans ce pays est un réfugié.
Pour Filippo Grandi, il y a très peu de pays au monde qui présentent une situation pareille. C'est inadmissible pour un pays comme le Tchad qui a ses propres défis de développement.
Le Tchad n'a pas de responsabilité dans le déclenchement de ces crises et donc cette responsabilité est là. Pour le reste de l'année, le système humanitaire a besoin de presque 400 millions de dollars, 388 pour être précis, pour aider le gouvernement à répondre à cette urgence. Pour l'instant, on n'a pas encore 100 millions de dollars. Donc on est très loin.
Déjà, la Banque mondiale a annoncé de nouveaux financements à hauteur de 340 millions de dollars pour permettre au Tchad de faire face à cette situation. Anna Bejer est la directrice générale des opérations de la Banque mondiale.
The World Bank would like to step up its support.
La Banque voudrait intensifier son appui au profit du Tchad en lui accordant un surcroît de ressources, notamment pour financer des projets critiques dans les moyens de subsistance, des projets qui permettront d'investir dans l'élevage, dans l'agriculture. Nous aimerions aussi investir davantage dans la protection sociale. Comme vous le savez, l'insécurité alimentaire devient un problème de plus en plus vivace. Nous voulons aussi accroître les ressources pour la combattre. Nous voudrions également renforcer nos investissements dans l'infrastructure de base, les hôpitaux, les écoles.
Les autorités tchadiennes réitèrent leur demande urgente de la tenue d'une rencontre internationale sur la crise humanitaire au Tchad afin de permettre la mobilisation de fonds pour faire face à l'ampleur de la crise que traverse le pays. André Kordouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
L'intégration de l'Union africaine au G20 a captivé l'attention du monde entier lors du sommet qui s'est tenu à New Delhi le week-end dernier. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique et le G20? Quelles sont les implications de cette admission historique? Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'analyste politique et spécialiste de l'Union africaine, Ibrahima Khan.
Vraiment une très bonne nouvelle pour le continent de pouvoir participer maintenant de manière permanente au plus grand forum sur la coopération économique mondiale, et de pouvoir y exposer les problèmes, discuter avec les plus grands acteurs de l'économie mondiale des solutions à apporter aux difficultés économiques, mais aussi aux agendas économiques de l'Afrique. C'est vraiment une très, très bonne chose pour le continent dans ce domaine. Seulement, il y a des questions importantes qui sont attachées à cela. C'est la capacité de l'Union africaine à pouvoir vraiment travailler de manière efficace pour pouvoir participer effectivement à ces activités-là.
L'Afrique est confrontée aux différents problèmes tels que le développement durable, la sécurité alimentaire, la stabilité politique et la lutte contre les inégalités régionales. Comment cette adhésion pourrait-elle contribuer à résoudre ces défis?
L'Afrique parvient au plan interne à discuter de ces problèmes, à identifier les bonnes stratégies et à vraiment mettre en avant ce qui est commun à l'ensemble des États africains. La semaine dernière s'est tenue à Nairobi une réunion sur le changement climatique en Afrique et la déclaration de Nairobi vraiment est le document de position des États africains. Maintenant, où porter ces problèmes, ou porter ces questionnements, ou demander à la communauté internationale de contribuer au règlement des problèmes liés au changement climatique. Le G20 en est un de ces espaces-là que l'Afrique pourrait utiliser. Cet espace-là va lui permettre vraiment de porter la voix de l'Afrique et peut-être d'amener la communauté internationale à être un peu plus regardant sur les préoccupations du continent.
En ce qui concerne la représentation équitable et la prise en compte des intérêts africains dans les discussions et les décisions du groupe des 20, quels sont les principaux obstacles et les préoccupations potentielles que les pays africains pourraient rencontrer en participant au G20?
Toute la méthodologie de travail doit changer. Le mode de fonctionnement de l'Union africaine doit changer pour pouvoir vraiment s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et cela veut également dire que l'Afrique doit vraiment être prête à mettre en place des mécanismes comme au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire donner plus de responsabilités à la Commission de l'Union africaine pour pouvoir traiter ces dossiers-là au nom du continent. Donc vous voyez que l'Afrique part avec beaucoup de handicaps, mais si la volonté y est, ces handicaps-là pourraient être surmontés et permettre au continent vraiment de vraiment défendre ses intérêts dans ce cadre nouveau qui se dessine pour lui.
Ibrahima Khan, analyste politique et spécialiste de l'Union africaine.
Salut à tous, c'est Yakuba Ouedraogo. Vous aimez le sport? Vous voulez comprendre davantage chaque discipline? Vous voulez en discuter? Retrouvez-moi chaque lundi en direct à partir de 19h05, temps universel, dans Sporama sur VOA Afrique. Pour participer à l'émission, c'est très simple. Laissez-nous vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.